Aujourd'hui, je vais reprendre là où j'étais arrivé il y a 15 jours. Et donc, je vous rappelle que on était en train de développer le formalisme hamiltonien des théories possédant une invariance de jauge. Je vous avais expliqué qu'il y a un problème quand on veut construire le hamiltonien, c'est que la transformation de Legendre est dégénérée, n'est pas inversible. Et donc, les techniques standards de passage à l'hamiltonien ne s'appliquent pas. Et au lieu de développer la théorie générale, je vous avais dit qu'on allait la développer à l'aide d'exemples bien précis. Et comme je suis intéressé par la gravitation en trois dimensions dans le cadre de ce cours, on avait commencé à étudier la théorie de Chern-Simons à trois dimensions. Et donc, la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est développer un peu plus le lien entre les contraintes. On avait vu qu'il y a des contraintes qui apparaissent dans le cadre de la théorie de Chern-Simons et les transformations de jauge. Et donc, on va le faire dans le cas précis de Chern-Simons. Et on va voir aussi que si on est sur une variété qui possède un bord, les termes de surface, on va voir apparaître des termes de surface qui jouent un rôle important. Et donc, fidèle à la philosophie que je vous ai exposée, on va faire ça. Ceci, c'est en fait des propriétés générales, mais on va d'abord les explorer dans le cadre d'un modèle particulier qui est Chern-Simons, c'est même basé sur un groupe abélien, le cas le plus simple. Donc je vous rappelle le principe d'action qui nous intéresse dans ce cas-ci. Donc c'est une action à trois dimensions qui dépend d'un champ vectoriel que j'appelle potentiel vecteur parfois ou connexion, donc une connexion abélienne, et l'action est donnée par K sur 4 pi intégrale d3x, epsilon lambda mu nu, A lambda d mu A nu. Et parce que ceci est antisymétrisé en mu et nu, enfin, parce qu'on a le epsilon, A0 ne possède pas de dérivée temporelle. Et donc c'est ça la difficulté, donc il n'y a pas de moment conjugué à 0. Et on a vu que en fait cette action étant du premier ordre, c'est très facile de l'écrire sous forme hamiltonienne. Et donc les composantes spatiales et temporelles de la connexion jouent des rôles distincts, et donc on va les écrire séparément. Donc on a donc les indices grecs. Dans le cadre de mon cours, prennent les valeurs 0, 1, 2, les indices latins, les valeurs d'espace 1, 2. Donc on va séparer les indices en 1, 2 et 0. Et donc on avait vu que cette action pouvait se réécrire k sur 2 pi, intégrale dx0, donc intégrale d2x, de a2 d0 à 1, plus a0. F1,2, donc ce sont des transformations, enfin, c'était évident. Alors, plus éventuellement des termes de surface, mais je vais parler des termes de surface plus tard. Donc, pour ma philosophie, pour le moment, c'est de d'abord regarder ce qui se passe dans le volume, à l'intérieur, et puis on regardera s'il y a un bord, on regardera ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Alors, j'avais écrit ça comme ça parce qu'en fait, pour les applications, pour les cas que je vais considérer, les coordonnées d'espace vont jouer des rôles distincts. Je vais essentiellement considérer Chern-Simons sur un disque pour commencer. Et 1 sera la coordonnée radiale et 2 sera une coordonnée angulaire. Donc, je travaille sur un disque. Et je vais utiliser les coordonnées polaires. Et la coordonnée phi, c'est aussi une coordonnée sur le bord. Et donc, ça va être utile de séparer les coordonnées, disons, qui caractérisent les déplacements dans le volume, et une coordonnée phi qui est attachée au bord. Donc, 2 sera phi et 1 sera r. Mais si on a envie d'avoir une écriture de cette action hamiltonienne sous une forme qui ne privilégie pas une coordonnée d'espace par rapport à une autre, on peut réécrire ça comme en intégrant par partie 1 demi epsilon ij. Probablement si je mets moins AI à point J. Et ce chiffre, je peux le réécrire comme 1 demi epsilon A0 epsilon ij fij. On compte deux fois, donc à le 1/2, et ici aussi deux fois. On aura deux fois le même terme à une intégration par partie près, donc qui reproduira ceci. Mais c'est cette forme-là que je vais utiliser parce que je vais me placer dans ce cadre-là rapidement, et donc 2 sera phi et 1 sera r. Alors l'avantage d'écrire l'action explicitement sous cette forme-ci, c'est qu'on voit qu'il y a deux termes. Il y a un terme cinétique hamiltonien. Donc ceci, c'est, en fait, l'action est déjà sous forme hamiltonienne. On a un terme cinétique qui est de la forme PQ point. Donc on voit que A1 et A2 forment une paire canoniquement conjuguée. Ça, on le dit tout de suite de la partie cinétique de la forme hamiltonienne. Et puis il y a un hamiltonien, mais le hamiltonien a la propriété de dépendre linéairement de A0, qui est une variable qu'il faut aussi varier dans le principe variationnel. Et quand on extrémise par rapport à A0, on a F1,2 égale à 0. Donc, si je calcule les équations obtenues en extrémisant l'action par rapport à A0, j'obtiens F1,2 égale à 0. Et F1,2 égale à 0, c'est une relation qui n'implique pas leur dérivée. C'est donc une contrainte. Donc, c'est D1... A2 moins D2 A1 égale à 0, donc il n'y a pas de dérivée temporelle. Ça veut dire que les conditions initiales vont être soumises à cette équation. Donc c'est une équation de contrainte sur les P et les Q. Donc on peut voir A1 comme Q, comme je l'ai dit, et A2 comme P. D'accord ? Donc ça, je pense qu'on est arrivé là. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer que cette fonction F1,2, donc la fonction qui définit la contrainte, joue un rôle double. Non seulement elle limite les valeurs possibles des variables canoniques, mais nous allons le voir maintenant, c'est aussi le générateur des transformations de jauge. Et ça va être une propriété générale, donc on va d'abord l'observer expérimentalement, si je puis dire, sur Chern-Simons, et puis je vous dirai après comment ça se passe dans le cas d'une théorie de invariance de jauge générale. Mais donc ici, on va voir qu'effectivement, si je construis, si je calcule le crochet de Poisson de n'importe quelle variable canonique, bon, en l'occurrence A1, A2, avec F1,2, je vais reproduire les transformations de jauge de A1 et A2. Donc je vous rappelle, cette action possède comme invariance de jauge delta A mu égale D mu epsilon. Donc on va reproduire cette transformation en calculant le crochet de Poisson avec la contrainte. C'est ce que je vais montrer. Je vais montrer aussi qu'il y a des subtilités lorsque les transformations de jauge ne sont pas nulles au bord. C'est pas d'ailleurs tout à fait juste ce que je viens de dire quand les transformations de jauge ne sont pas nulles au bord. Il faut ajouter un terme de surface qui, lui, en général, ne va pas être nul en vertu des contraintes. Donc là, on va voir ça très explicitement sur ce cas. Mais avant d'étudier le lien entre F1,2 et les transformations que F1,2 engendre, je voudrais rappeler quelques propriétés du formalisme hamiltonien concernant le lien entre les vecteurs de l'espace des phases qui définissent des transformations canoniques infinitésimales, qu'on appelle aussi champ de vecteurs hamiltonien, et le générateur correspondant. Et donc je vais d'abord faire quelques rappels je vais continuer les rappels que j'avais déjà fait la fois passée, mais je vais aller un peu plus loin sur la mécanique hamiltonienne à un nombre fini de degrés de liberté, et puis on va revenir à ceci qui est une théorie de champ, et où il y a des subtilités, où il peut y avoir des subtilités avec les termes de bord, de surface. Donc je vous rappelle, c'est les mêmes notations que la fois passée. Je vais travailler dans un espace des phases à un nombre fini de degrés de liberté. J'appelle les coordonnées, je travaille en coordonnées canoniques, bon, les subtilités liées à des propriétés globales de l'espace des phases, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc on va travailler à un espace des phases isomorphe à R de Zn, les Q et les P sont les degrés de liberté. On a vu que dans l'action, on aura PIQ.I, donc ça définit dans l'espace des phases une informe que je peux appeler A, Et donc j'appelle la dérivée extérieure dans l'espace des phases pour la différencier, pour ne pas la confondre plutôt avec une dérivée extérieure dans l'espace-temps. Je l'appelle dv, et en fait v c'est pour vertical, et je vous expliquerai pourquoi cette notation est appropriée un peu plus tard. Donc ceci c'est une informe dans l'espace des phases. Donc l'espace des phases est une variété à... Enfin ici c'est R2n, et donc on peut construire une informe dans... On a l'opérateur de dérivée extérieure dans R2n, et on a cette informe-ci qui vient de... qui est juste ce qui vient de l'action, hein, du fameux terme PIQ.I. Donc ici aussi on aura une informe dans l'espace des phases qui vient de ceci, qui est dv1. Bon. Alors à partir de cette informe, j'ai construit ce qu'on appelle la forme symplectique, que j'appelle, je note capital oméga. Et donc on prend la dérivée extérieure, c'est la dérivée extérieure de A. C'est donc dvpi, dvqi, hein, puisque dv carré est égal à 0. Hein. Et donc, par construction, on aura que dv oméga est égal à 0. Donc, c'est une forme fermée, en fait, elle est même exacte. Alors, donc ce qui m'intéresse, c'est... Alors, grâce à pourquoi c'est important, cette forme symplectique, c'est parce que c'est elle qui fait le lien entre champ de vecteurs hamiltonien, je vais définir tout de suite, et fonction engendrant la transformation correspondante. Donc, un champ de vecteurs dans l'espace des phases... Ça va être quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, j'utilise les notations. Donc, ça va des composants. Donc, ça va être une combinaison linéaire des vecteurs de base, d sur dqi et d sur dpi. J'appelle les coefficients, qui sont des fonctions de l'espace des phases. Donc, ça, c'est les coordonnées sur l'espace des phases, grand Q et grand P. Alors. Donc un champ de vecteurs, on peut penser ça comme quelque chose qui définit une transformation infinitésimale dans l'espace des phases. Alors on dira que X est hamiltonien. En fait, si ça définit une transformation canonique infinitésimale, c'est-à-dire si en fait X préserve la deux formes symplectiques, c'est-à-dire si la dérivée de l'I le long de x, donc je vais l'écrire comme ça, de oméga, est égal à 0. Donc ça veut dire que la transformation infinitésimale engendrée par x ne change pas la structure symplectique. Donc dans ce cas-là, donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois, je l'appellerai aussi comme ça d'ailleurs, une transformation canonique ou symplectique infinitésimale. Et le fait que oméga soit une forme fermée, va permettre d'associer au champ de vecteur x une fonction. Alors comment ça marche? On se rappelle que la dérivée de l'i d'une informe, ça peut s'écrire en termes de la dérivée extérieure et du produit intérieur de la manière suivante. C'est l'anticommutateur de D et de la contraction. Alors peut-être la contraction, donc la contraction d'une deux formes ou d'une n forme par un champ de vecteurs, vous remplacez, vous agissez ici, et vous, donc par exemple, je vais l'écrire explicitement, Ix oméga, on en aura besoin. Donc vous agissez, vous faites une contraction intérieure, donc vous allez remplacer des VPI par PI. Donc vous contractez, pardon, D sur DPI avec DVPI. J'aurais dû écrire ça en dessous, voilà, la covariance. Voilà, donc là je suis, donc effectivement, hein. Donc ça va être PI dvqi. Et puis, bon, comme il faut passer à travers, c'est un objet de degré 1, il y a un signe moins dvpi qi. Donc ça, c'est un rappel. C'est C'est la définition du produit intérieur, c'est comme ça qu'on procède. Donc vous contractez ça avec ça et ça avec ça, mais alors il faut faire attention aux signes, mais à part ça, c'est évident. Et donc, on a cette propriété, vous pouvez vérifier ça en général, que c'est vrai. Mais comme oméga a la propriété d'être fermé, seul le premier terme reste, donc ceci va être dv ix oméga, j'écris comme ça, et c'est égal à zéro. Si x est hamiltonien, si la dérivée de l'i de la deux formes symplectiques est égale à zéro, ça c'est égal à zéro. Mais du coup, on en tire, puisqu'il n'y a pas de problème de topologie, j'ai un espace des phases trivial, R2n, que ix oméga, c'est dv de quelque chose. Et les conventions hamiltoniennes que je suis sont telles que le quelque chose, je l'appelle moins f. Donc je mets un signe moins ici. Alors cette relation est voilà, donc on a que si x est un champ hamiltonien, de vecteur hamiltonien, cette contraction que j'ai écrite ici est en fait la dérivée extérieure d'une fonction qu'on a appelée moins f, et cette fonction on l'appelle la fonction génératrice de la transformation canonique correspondante, ou le générateur de la transformation canonique correspondante, parce qu'on va voir qu'effectivement la transformation canonique s'obtient en prenant le crochet de poisson avec F. Donc l'action du champ de vecteur X est reproduite en prenant sur une fonction quelconque, est en fait obtenue en prenant le crochet de poisson avec F. En fait, on peut même définir le crochet de poisson comme ça. Donc je vais suivre mes notes pour... je sais pas... Donc je vais définir le crochet de poisson, en fait c'est comme ça qu'on procède, je vais définir le crochet de poisson, avant de définir le crochet de poisson, d'abord des commentaires. Donc vous voyez que si je me donne un champ de vecteur X hamiltonien, donc qui obéit à cette propriété, je peux lui associer une fonction F, mais la fonction F est définie à une constante près, puisque dv agissant, donc le noyau de dv sur les fonctions, c'est les constantes. Donc F est équivalent dans cette équation-ci à f plus constante. Donc, rappelons-nous, je vous donne x, f est déterminé à une constante près. Par contre, si vous me donnez f, je peux calculer moins dv de f. Et comme oméga est inversible, je vais écrire ça en composant, donc on verra comment ça marche. Grand x est complètement déterminé. Donc, la relation qui m'associe à une fonction de l'espace des phases, un champ de vecteur hamiltonien, en fait, f détermine x complètement, mais dans l'autre sens, c'est à une constante près. Donc vous voyez que les constantes sont annihilées. En d'autres termes, les constantes sont envoyées sur le champ de vecteur nul. Bien. Donc peut-être écrivons les choses de manière plus explicite, peut-être pour voir un peu effectivement que ceci correspond à ce qu'on a déjà vu. Donc prenons par exemple x. Je vais le faire en calculant le crochet de poisson, ce sera plus parlant. Bon, alors maintenant je vais définir, donc si j'ai deux fonctions f et g, à f va être associé un certain champ de vecteurs, appelons-le peut-être xf, à g va être associé un certain champ de vecteurs xg. Je vais définir le crochet de poisson de f avec g comme étant la fonction obtenue en agissant avec le vecteur xg sur f. Donc en fait, ça c'est juste la dérivée le long de x. Bon, comme c'est des fonctions, la dérivée de l'i c'est juste la dérivée ordinaire. Donc c'est la dérivée dans la direction de xg de f. Alors, le signe moins et le fait que j'agis dans l'autre sens, peut-être, c'est lié à cette. C'est purement conventionnel. Hein. Vous avez parfois d'autres définitions qui disent que ce sera la dérivée de l'i le long du champ de vecteur associé à f de g, et qu'on va voir tout de suite, ça diffère du signe, par le signe. Hein, parce que ça peut être vu comme la contraction par le vecteur xg de dv de f, Mais dv2f, c'est moins, d'après ce qu'on a vu quelque part, ix oméga, donc c'est moins ixg ixf de oméga. Et donc vous voyez que c'est antisymétrique, hein, puisque oméga est une deux formes, enfin ceci, c'est anticommute. Donc effectivement, cet objet-ci est bien antisymétrique. Et je vais vous montrer que ça reproduit bien ce qu'on sait, ce qu'on connaît sur les crochets de poisson. Donc si j'applique ça, donc ce sont des rappels, hein, je pense. Oui, alors le crochet de poisson, je le note aussi parfois, mais je pense que j'utiliserai toujours la notation de crochet, comme je serai classique, quasi dans tout le cours, comme ça. Ce sera la même chose. Mais parfois, je veux le distinguer du commutateur, et alors il faut faire attention, et c'est mieux d'avoir deux notations, mais... Donc, je devrais peut-être d'emblée utiliser celle-ci, mais je ne serai pas très systématique, donc je ne vais pas essayer. Et donc, j'utilise cette notation déjà maintenant. Bon, on verra bien plus tard. Alors, en composantes, donc si j'introduis les composantes de la deux fermes, donc j'introduis, je vais noter collectivement, comme j'avais fait la fois passée, QI et PI, les coordonnées de l'espace des phases, ZA. Et donc j'écris oméga AB, pardon, oméga est égal à 1 demi oméga AB dZA dZB. Et je vois que j'ai déjà oublié le vertical, donc remettons V. Et donc on avait vu que la matrice oméga B, donc c'est une matrice antisymétrique, qui a la structure suivante. Hein, parce que ça, c'est ce qu'on a écrit, c'est juste, ben c'est ça, hein. Il faut reproduire ceci, donc on l'écrit, il n'y a pas de terme dq, dq, il n'y a pas de terme dp, dp, c'est antisymétrique, bon voilà, ben ça c'est oméga. Alors on introduit la matrice inverse, donc c'est juste le produit matriciel, et on avait vu la fois passée que la matrice oméga AB, c'était la matrice suivante. Et les définitions que je vous ai données sont équivalentes à crochet de poisson de FG est égal à DA F oméga AB DB G. Donc comment on voit ça? Ben, il faut regarder cette équation-ci qui vous relie F au vecteur, au champ de vecteur hamiltonien correspondant, c'est xa oméga ab, ça c'est la contraction de x avec oméga, est égal à moins db de f. Et donc vous voyez que comme oméga, donc c'est ce que j'avais dit, comme oméga est inversible, voilà, si je vous donne f, vous pouvez en tirer directement xa en inversant, et inverser, ça fait apparaître la matrice inverse. Et donc, si vous faites le calcul, l'exercice, vous allez trouver cette expression-ci. Et si je déballe cette somme, ben, je vais avoir des termes. C'est une matrice dont les seules composantes sont les composantes hors diagonale. Donc, quand je vais avoir ici, donc je vais avoir une contribution qui vient de là, une contribution qui vient de là. Celle-ci va me donner df sur dqi. Donc, et le P correspondant, et la matrice 1 apparaît, donc DG sur DPI, avec le signe plus, et puis moins, cette contribution-ci, DF sur DPI, DG sur DQI. Donc tout ceci, en fait, pour retrouver une expression que vous connaissez bien pour le crochet de poisson, donc ça. Et donc, vous voyez que c'est formalisé en utilisant cette deux formes symplectiques. Et on peut montrer que le fait que la deux formes symplectiques est fermée est équivalente, c'est équivalent à l'identité de Jacobi pour le crochet de poisson, de manière générale. Bon, ici, c'est assez évident à voir parce qu'oméga est une matrice constante en plus, donc les choses sont faciles à vérifier. Mais donc, la propriété familière de crochet de poisson qui obéit à l'identité de Jacobi est équivalente au fait que la deux formes symplectiques est fermée. Donc, je fais ces rappels-là parce qu'on va voir que c'est important quand on passe à la théorie des champs. Mais avant de passer à la théorie des champs, il y a encore une chose que je veut dire, et justement à propos de l'identité de Jacobi. Donc l'identité de Jacobi, elle me dit que si je prends trois fonctions, et que je calcule le crochet de poisson, et que je fais ensuite une sommation, donc sur les permutations cycliques, donc j'ai HF plus, alors lequel n'est pas encore, le F n'est pas encore arrivé ici, j'ai H, ça c'est égal à 0. Alors, cette identité-là, je l'aime bien l'écrire de la manière suivante. Donc, je vais mettre de l'autre côté ces termes-ci. Si je les mets de l'autre côté, ça change de signe. Mais une manière de changer le signe, c'est de se rappeler que c'est antisymétrique. Donc, ceci, c'est la même chose que HF G. Oui. Et ça, c'est la même chose, donc je le mets de l'autre côté, donc ça change de signe. Mais je vais, alors, je vais permuter les deux. Donc je vais avoir GHF, mais j'ai envie d'avoir H en premier, donc je vais refaire encore un changement de signe, donc c'est la même chose que HGF est égal à 0. Alors, ça, vous voyez qu'en fait, c'est la variation de H sous l'action de F, au signe près, par définition. Enfin, c'est comme ça qu'on a, pardon, c'est même pas au signe près. Donc ça, c'est la dérivée de l'I de H. Et puis, on prend la dérivée de l'I selon le vecteur hamiltonien XG. Et ici, je vais avoir moins, en fait, le commutateur. Donc on va avoir d'abord la dérivée de l'I selon XG, puis la dérivée de l'i de cette expression selon, XF. Donc vous voyez apparaître le commutateur des dérivées de l'i. Et ça, on sait que c'est la même chose que la dérivée de l'i le long du crochet de l'i des vecteurs. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, si vous avez deux champs vectoriels hamiltoniens, leur crochet de Lie est hamiltonien. Et en plus, la fonction génératrice, alors ça, c'est parce que mes conventions de signes sont comme ça, c'est moins... Oui, parce qu'il y a un signe moins hein, dans la définition. Enfin non, pardon. Donc, c'est FG, mais dans l'autre sens. Pardon, oui, c'est ça. Donc, c'est FG. Donc, on voit que c'est. Il faut, pour engendrer cette action-là, il faut prendre le crochet de poisson avec FG. Et donc, vous voyez que la fonction qui engendre la transformation associée au crochet de Lie, c'est moins le crochet de poisson. Donc, ce sera moins FG à une constante près. Hein, parce qu'on sait que si je connais le champ de vecteur, le générateur est fixé à une constante près. Donc ça veut dire que si par exemple les champs de vecteurs X, G, XF forment une algèbre de Lie, mais ce qu'on sait, c'est que le crochet de poisson des générateurs correspondants va me reproduire cette algèbre de Lie, mais éventuellement à une constante près qui va dépendre des champs de vecteurs. Donc plus une constante, qui en fait on appelle une charge centrale dans ce cas-là, qui va dépendre des champs de vecteurs XG et XF, mais qui ne dépend pas des Q et des P, donc c'est une constante de ce point de vue-là. Donc ça, on l'apprend à partir de l'identité de Jacobi. Donc l'identité de Jacobi nous dit que si j'ai une algèbre de Lie qui agit sur mon espace des phases, et que je regarde les générateurs correspondants, ces générateurs vont former une algèbre de Lie dans le crochet de poisson, parce qu'ils respectent ça, mais comme les générateurs sont déterminés à une constante près, il peut y avoir une constante qui apparaît quand je calcule le crochet de poisson. On va voir un des exemples très, très précis de ça, donc c'est peut-être un peu abstrait, vous pouvez vous demander aussi pourquoi je dis ça, C'est parce qu'on va voir des exemples, et d'ailleurs Chen Simon va être le premier, qui nous donne un exemple de on se donne une algèbre de Lie de transformation qui agit canoniquement, donc il y a des générateurs correspondants, mais on calcule les crochets de Poisson de ces générateurs, on sait que ça me définit une fonction qui engendre le crochet de Lie, mais ça veut dire qu'elle diffère peut-être du crochet de Poisson par une constante. Donc il peut y avoir des constantes qui apparaissent quand on regarde comment l'algèbre est réalisée par le crochet de Poisson au niveau des fonctions génératrices. Bien, alors, donc je suis en train de préparer le terrain pour ce qu'on va faire avec Chen Simons. Alors, donc la conclusion ici pour des théories à un nombre fini de degrés de liberté, c'est que... si on a un champ de vecteur hamiltonien, il lui est associé une fonction génératrice donc qui engendre la transformation correspondante à travers le crochet de Poisson. Et cette fonction génératrice est définie à une constante près. Et inversement, si je me donne une fonction, donc si je me donne G ou F, bon, dans ce cas-ci, c'est avec F que j'ai travaillé, si je me donne F, je peux retrouver le champ de vecteur correspondant, donc ce serait avec F, en inversant oméga AB. Ce qui est possible parce qu'oméga AB est inversible. Bien, alors je vais vous montrer que quand on passe à la théorie des champs, et Chen Simons va nous donner un exemple, c'est que si on se donne un champ de vecteur hamiltonien, donc qui obéit à cette propriété-ci, on peut toujours construire un générateur qui est connu à une constante près, mais qu'inversement, il peut exister des générateurs qui ont l'aide d'être différenciables et donc des fonctions tout à fait acceptables sur l'espace des phases. On va voir que dans certains cas, il ne leur correspond pas de champ de vecteur hamiltonien. Donc, alors qu'ici, on peut toujours aller de F vers X. Bon, on suppose que F est différenciable, hein. Aller de F vers X dans le cas de théorie des champs, ça peut être où la notion de différenciabilité est plus subtile qu'on ne pourrait le croire en tout cas, et donc dans certains cas on ne peut pas passer de F à X, il ne peut pas y avoir de solution à ça. Donc c'est ce que je voudrais montrer maintenant, et après on reviendra à Chen Simons. Donc je vais prendre une théorie, un champ scalaire, comme ça il n'y a pas de contrainte ni quoi que ce soit, vous montrer qu'effectivement pour passer de le lien entre fonctions et champ de vecteur hamiltonien est un peu plus subtil en théorie des champs quand il y a des termes au bord qui peuvent apparaître, et puis on aura tout ce qu'il faut pour revenir à Chen Simons. Donc considérons un champ scalaire, et on avait vu que la partie cinétique, donc on a le moment, donc j'ai un champ scalaire que j'appelle phi, et puis j'ai son moment conjugué, appelons-le pi, et donc dans l'action sous forme hamiltonienne, on aura l'intégrale sur d3x, disons qu'on est à 3 plus une dimension, de pi fois phi point, et donc ça va me donner comme forme symplectique l'intégrale sur d3x, hein, je travaille à 4 dimensions d'espace-temps, 3 dimensions d'espace, dv pi de x, dv phi de x, et en fait on peut voir ici pourquoi j'ai utilisé la notation dv. Si je regarde ici le R3, hein, donc la variété, l'espace. On peut voir les pi et les phi. Bon, je vais pas formaliser ça plus comme en chaque point, comme étant dans une fibre au-dessus du point. Et le dv est réellement une dérivée extérieure le long de cet espace pi phi. Et ceci serait un dh, un horizontal. Donc bon. C'est une notation qui est parfois utilisée par les gens qui étudient ce genre de problème, par les mathématiciens qui étudient ce genre de problème. Mais en tout cas, il est bon de distinguer les deux, et pour distinguer, j'utilise cette notation dv. Donc dv, c'est réellement l'équivalent de la dérivée extérieure dans l'espace des phases, c'est-à-dire dans l'espace des pi et des qui. Parfois même, on utilise ça, on utilise la notation suivante. Vous trouverez ça dans les livres. Parce que ça correspond en un sens à une variation infinitésimale des champs, hein, mais on ne bouge pas à x, tandis que la dérivée extérieure disons d'espace qu'on note dh, elle évidemment elle différencierait pi par rapport à x. Hein. Donc on aurait des dérivées de pi, on aurait des pi virgule i, ce serait la dérivée par rapport à xi de pi dxi. Mais ce n'est pas ça que je veux dire ici. Donc ça, c'est ce qui justifie la notation. Bon, ceci étant dit, j'efface. Et donc, supposons que j'ai un champ de vecteurs dans l'espace des phases. Donc, c'est-à-dire que je me donne une variation infinitésimale de pi et de phi. Donc je vais avoir quelque chose comme l'intégrale sur d3x d'un certain... Donc phi varie d'une certaine manière. Donc je l'écris comme tout à l'heure. Et comme phi majuscule et phi minuscule, j'ai peut-être du mal à l'écrire au tableau, on va prendre psi, qui va dépendre de x, mais des champs aussi. Hein. Donc psi est un champ de vecteurs dans l'espace des phases. Hein. Et l'espace des phases, c'est les pi de x et les phi de x. Donc ça va dépendre de pi, de phi, et ça peut dépendre aussi explicitement de x. Et puis je vais avoir une partie qui me dit comment les pi se transforment, donc qui va aussi dépendre de x, hein, mais aussi de pi et de phi. Donc ça, c'est un champ de vecteurs. Et donc, qu'est-ce que ça va être la contraction de oméga? Donc on va remplacer, donc qu'est-ce que je dis la règle? Il faut... on va d'abord agir avec celui-ci, c'est plus facile, il n'y a pas de changement de signe. Donc ça va être pi dv de phi, puis je vais avoir moins psi dv de phi. Alors ce qui est important, c'est que vu la structure de ma forme simple éclectique, où je n'ai pas de dérivée par rapport à l'espace des pi ou des phi, j'obtiens, lorsque je calcule la contraction de oméga par n'importe quel champ de vecteur, j'obtiens des dv de phi, dv de pi non différenciés par rapport à l'espace. Je n'ai pas de terme, il n'y a pas de terme dv de phi i, par exemple. Il n'y a pas de terme dv de pi i, ni avec des dérivées supérieures. J'ai uniquement des champs non différenciés qui apparaissent dans la dérivée extérieure ici. Et on va voir que ça peut poser des... Enfin, ça présente un défi quand on veut relier une fonction à un champ de vecteurs. Bon, maintenant, prenons par exemple une fonction f quelconque. Donc, en fait, je vais prendre une fonctionnelle parce que c'est avec ça qu'on va travailler, qui est locale, en sens qu'elle dépend des champs et d'un nombre fini de leurs dérivées. Bon. Mettons les dérivées premières, mais il pourrait y avoir des dérivées secondes aussi. Hein. Ça s'arrête à un moment donné. La même chose pour pi, par exemple. Hein. Mais il pourrait y avoir plus de dérivées. Mais bon, je ne peux pas tout écrire. Et on se pose la question... Donc je me donne une fonction. Donc je raisonne comme en un nombre fini de degrés de liberté. Et lorsqu'on a un nombre fini de degrés de liberté, je me donne une fonction qui est différenciable. Donc on va supposer que f est une fonction complètement différenciable de ses arguments, qu'on peut différencier autant de fois par rapport à phi, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, donc qu'il n'y a pas de problème de... Donc on peut prendre une fonction c infinie si on veut, on n'en a pas besoin, mais bon, on va voir que ce n'est pas ça le problème. Et je me pose la question de savoir quelle est la transformation canonique engendrée par f. Alors pour ça, on va calculer dvf. Hein, la formule magique, enfin, la formule qu'on utilise tout le temps, c'est ix oméga égale moins dv de f. Donc ça, c'est pas n'importe quel champ de vecteur obéit à cette équation. Mais si x est un champ de vecteur qui obéit à cette équation, ça veut dire qu'il préserve la forme symplectique, c'est une transformation canonique, alors on peut lui associer un champ de vecteur f. On peut voir qu'en théorie des champs, où ici je ne vais pas supposer de subtilité topologique, c'est toujours vrai. Donc passer de x à f quand x est hamiltonien, il n'y a pas de subtilité. Donc dans ce sens-là, sauf qu'il y a toujours la constante qui peut s'introduire. Mais à part ça, donc il n'y a rien de nouveau du point de vue nombre de degrés de liberté fini. Par contre, le passage de f à x va poser des problèmes en présence de bord, et il faudra faire attention aux termes de surface, qui est en fait tout le cours, les termes de surface. Donc c'est pour ça que je passe du temps à expliquer ceci. Donc on va voir tout de suite quelle est l'origine de la difficulté. Calculons dv de f. On différencie. Donc c'est df sur dφ dv phi. On va calculer que les premiers termes. Hein, ce sera suffisant pour voir qu'il va y avoir un problème. plus df sur ben, la dérivée par rapport à phi, à d phi, pardon, dv di phi, plus bon, les termes avec pi, et puis il y a des dérivées supérieures aussi. Donc on va faire, écrivons juste ces termes-là, on va voir tout de suite l'origine du problème. Alors, dv et di, c'est des... dv, c'est dans une direction, et i, c'est horizontal, donc ça commute, hein, ceci. Alors, j'ai envie d'extraire de cette équation, en utilisant cette relation, ce que x est. Et donc pour ça, il faut... Mais vous voyez que ix oméga, quel que soit x, peut toujours s'écrire comme cette combinaison ici des dv phi et dv de pi, mais il n'y a pas de dv phi, il n'y a pas de dv pi. Et donc, pour pouvoir réécrire ça comme ça, je dois faire des intégrations par partie. Donc ici, je vais dire, mais ça, ce n'est pas un problème, je vais dire ça, c'est plus di de df sur di phi, dv, pardon, puisque j'ai intégré, c'est dv de phi, moins, bon, j'ai intégré par partie, donc il faut l'autre terme aussi, di df sur d di phi, dv phi. Alors, ce terme-là, à la structure qu'il faut, c'est-à-dire c'est dv phi non différencié, mais à ce terme-ci. Alors, si on est sur une variété sans bord, bon, donc ça on peut convertir l'intégrale de di, donc ça c'est une divergence, on peut calculer, on peut remplacer cette intégrale de volume par une intégrale de surface, et s'il n'y a pas de bord, ben, ça fait zéro. Mais s'il y a un bord, on va obtenir quelque chose, ça c'est plus, donc je peux intégrer... Si je veux, donc je vais avoir le bord, D de, du bord, donc D de la variété sur laquelle on travaille, de D N-1, j'étais à trois dimensions, donc ce sera un D2, bon, je suis dans, oui, donc D2 SI, DF sur D, DI phi, DV de phi. Alors, si on veut identifier cette expression, à cette expression-ci, aussi une près, ça n'a pas beaucoup d'importance, on voit que je n'ai pas de terme là qui correspond à ceci. Donc j'ai des termes qui correspondent à des intégrales sur des 3x de volume avec dv de phi non différencié, donc ça ne pose pas de problème, pareil il y aura dv de pi non différencié, mais je n'ai pas de terme de surface analogue à ça. Et donc on ne pourra jamais avoir l'égalité si ces termes de surface sont présents. Alors, il y a deux manières que ces termes de surface ne soient pas présents. Mais soit il n'y a pas de surface, pas de bord. Bon, donc dans ce cas-là, on ne doit pas se poser de questions. Soit les conditions aux limites sont telles que cette intégrale de surface est égale à zéro. Et si cette intégrale de surface est égale à zéro, alors on peut utiliser le formal hamiltonien comme dans les théories à un nombre... fini degré de liberté, et associer à F un champ de vecteurs hamiltonien. Si par contre le terme au bord n'est pas nul, eh bien F est une fonction de l'espace des phases qui a l'air d'être régulière. Si je vous ai dit si petit f est choisi de manière régulière, ben, grand F a l'air d'être une fonctionnelle locale régulière, mais en fait elle n'est pas bon, différenciable au sens hamiltonien du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui associer un champ de vecteurs hamiltonien par cette équation, parce qu'il reste un terme de surface non nul. Alors, pour discuter ce terme de surface, ben, il faut évidemment en dire un petit peu plus. Il faut savoir quelle est la forme de petit f, il faut connaître les conditions au bord, parce que ceci sera nul dans certains cas, et peut-être pas nul dans d'autres. Donc, ce n'est pas un problème qu'on peut régler une fois pour toutes, indépendamment de f et des conditions limites. Mais le message que je veux faire passer, et on va voir maintenant des cas très explicites, je vais revenir à Chern-Simons, c'est que pas n'importe quelle fonction de l'espace des phases, en théorie des champs, définit un champ de vecteurs hamiltonien. Il peut y avoir un problème. Alors ça, c'était la théorie, disons, un peu générale. Maintenant, revenons à notre exemple concret. Et ce que je veux faire, c'est voir quelle est la transformation canonique engendrée par les fonctions qui définissent les contraintes. Et ce que je veux vous démontrer, c'est que la transformation canonique engendrée par les contraintes, lorsque le paramètre en fait, de jauge s'annule au bord, est une transformation de jauge. Donc, enfin, soyons plus précis. Donc là, je suis un peu en train de... Donc je reviens à Chern-Simons. Et ce que j'ai dit va s'illustrer, mais vous voyez qu'on va utiliser ce que j'ai dit aussi, et on l'utilisera aussi dans la suite du cours. Donc, pour Chan Simons, on peut se dire que c'est peut-être un peu compliqué de passer par tout ce formalisme hamiltonien pour faire les choses, mais dans des cas plus compliqués, bon, que Chan Simons abélien, c'est important d'avoir ce que je viens de dire à l'esprit. Et donc, alors l'espace des phases, c'est évidemment un espace infinidimensionnel, et un point de l'espace des phases est défini par une configuration sur R3 des phi et des pi. Oui, non, c'est parce que j'aurais pu travailler sur... Non, c'est vrai, pour Chan Simons, c'est sur R2. Je vais écrire des... Bon, si j'ai tellement l'habitude de travailler à 3 plus 1 dimension que dans la... Pour le champ scalaire, j'avais pris un champ scalaire à 4 dimensions d'espace-temps, donc 3 dimensions d'espace. Donc, de manière générale, ce sera le nombre de dimensions d'espace. Voilà. D'accord. Donc, si... Et ça, c'est toujours vrai. Donc, si j'ai de l'espace-temps, ce sera en dimension D plus 1, 1 étant le temps... Et donc, dans l'espace des phases, ce seront des configurations qui dépendent des coordonnées d'espace et qui évoluent, évidemment, avec le temps, en général. Oui, oui, d'accord, merci. Donc, il y a des réflexes. Donc, j'ai tendance à écrire D3X ou D4X, mais D2X, c'est plus... Enfin, bon. Voilà, donc, effectivement, donc revenons à Chan Simons. Justement, je vais donc là être tout à fait explicite. Donc la forme symplectique de Chern-Simons, puisqu'on va en avoir besoin. Alors j'essaye d'être systématique. Donc la forme symplectique de Chern-Simons, c'est effectivement... Donc l'espace des phases de Chern-Simons, c'est A1 qui dépend de deux coordonnées. Alors je vais tout de suite prendre des coordonnées polaires et je vais me placer sur un disque, comme je l'ai dit, et A2 de R phi. Et donc c'est A2, c'est A phi, et A1, c'est AR. Et donc je travaille, il y a deux coordonnées, comme tout à l'heure, phi et R. Et donc, un point de l'espace des phases est déterminé par une configuration particulière de AR comme fonction de R phi sur le disque. Je travaille sur un disque, et A phi de R phi sur le disque. Je prends le disque pour vous illustrer... parce qu'il a déjà un bord. On considérera plus tard dans le cours des variétés qui ont plusieurs bords et on verra ce qui se passe dans ce cas-là. C'est amusant et c'est important et intéressant. Mais ici, prenons le cas le plus simple d'une variété. En plus, on ne veut pas se poser des questions à l'infini, donc on va prendre un disque avec un rayon fini. Juste pour illustrer les concepts généraux. Et donc voilà, donc ça c'est l'espace des phases. Et la forme symplectique va donc être effectivement une intégrale sur R et phi, donc je vais écrire D2x, de l'action est là quelque part, dv, il y a même un k sur 2pi, donc c'est k sur 2pi, je lis ça d'ici, hein, A2, D0 à 1, donc c'est dv à 2, donc dv à phi, wedge dv à r. Hein, AR et AFI sont... conjugué. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher, on se pose la question, quelle est la transformation canonique engendrée par la fonction F1,2. Donc, je vous dis qu'il y a un lien entre fonctions qui définissent les contraintes et transformation de jauge. Et ce lien, c'est que les contraintes engendrent canoniquement les transformations de jauge. Donc on va calculer alors la contrainte, on va peut-être déjà mettre, si je veux mettre ça comme moins à 0 fois la contrainte c'est moins k sur 2pi. Bon, les choses sont normalisées comme ça, on va voir qu'effectivement c'est la bonne normalisation F1,2. Donc je prends le coefficient du multiplicateur de Lagrange, mais multiplicateur, vous savez qu'en général, dans l'action canonique, on a moins h, donc c'est naturel de mettre moins à 0 F1,2. Bon. Si F1,2 est égal à 0, moins F1,2 est égal à 0, moins K sur 2pi F1,2 est égal à 0. Mais donc, c'est naturel de normaliser les choses en regardant le coefficient là et ici. Donc, voilà. Donc, on se pose la question. Je considère la fonctionnelle moins K sur 2pi D2x epsilon qui dépend de x, donc de r et de phi, mais je ne vais pas l'écrire systématiquement, F1,2. Hein, donc je prends, donc ça c'est l'intégrale des 2x de epsilon fois la contrainte, si j'appelle la contrainte ça. Et je voudrais savoir quelle transformation canonique cette fonction engendre. Donc pour ça, je vais appliquer la règle qui me dit que Ix oméga, c'est moins dv de f. Donc ce que je dois faire, c'est calculer dv de f. On a le oméga, et voir s'il existe un x que je peux mettre qui obéit à cette relation. D'accord ? Donc calculons dv de f. Bon, ça, c'est pas compliqué. dv de f, c'est... Alors, au tableau, je fais invariablement des fautes de signe, donc surveillez ce que je fais. Donc j'intègre sur le disque, donc soyons même précis, dr, dφ. Donc je vais obtenir donc fr phi, je vous rappelle, f1,2 c'est fr phi, hein. 1 c'est r, 2 c'est phi, donc c'est dr de a phi moins dφ de a r. Donc je vais avoir dr de dv a phi moins dφ de dv a r. Hein. Et j'ai un epsilon quelque part, oui. D'accord ? Donc c'est, je calcule ça. Alors, vous voyez que... alors, calculons, parce qu'en fait, il faut comparer ça à quoi ? Il faut calculer ça à x oméga. Donc, où x va être, va avoir une composante, appelons-la xr. Donc, c'est la variation infinitésimale de ar, que j'appelle grand xr, plus la variation infinitésimale de a phi, que j'appelle grand x phi. Donc x, ça c'est un champ de vecteurs dans mon espace des phases avec une intégrale sur d2x. Donc il me dit, ça me dit comment ar varie le long du champ de vecteurs et a phi varie le long du champ de vecteurs par xr et par x phi. Et donc ix oméga, si j'ai un tel champ de vecteurs qui est un champ de vecteurs le plus général, ça va être, où est oméga ici, donc ça va être k sur 2pi. Alors, on va d'abord agir avec celui-ci, parce que là, il n'y a pas de changement de signe. C'est x phi dv à r moins xr dv à phi. Et il y a une intégrale des deux x. D'accord ? Et donc, ce que je dois faire, c'est comparer ça à ça. Et des 2x et dr des phi, puisque je l'écris comme dr des phi là-bas. Pardon ?
La mesure sur la mesure des 2x, dr des phi ou r des phi ?
J'ai pas de métrique et en fait c'est une densité, il y a un epsilon, donc ce sont des, il y a déjà. Oui. J'utilise, bon, c'est dans les, voilà, d'accord, oui. Alors, donc je dois comparer les deux expressions. Alors voyons, je veux être sûr que je ne fais pas de faute de signe, parce que sinon ça, l'effet sera raté. Donc, je vérifie avant. je pense que c'est juste. Hein. D'ailleurs, vous ne dites, vous vous plaignez pas, c'est que, alors si, c'est que vous trouvez que c'est juste. C'est bien. Bon. Alors, vous voyez que, à nouveau, il n'y a pas de différence, de dérivée de AR et de AFI, mais ici, on a des dérivées de DV à AFI et de DV à AR. Donc, il faut faire des intégrations par partie. Donc, pour mettre cette expression-ci sous cette forme-là, je dois faire des intégrations par partie. Alors, je dois intégrer par. Voilà, le terme qui va poser des problèmes quand on intègre par partie, c'est le terme en DR. Hein? Donc a priori, donc lui, ça va me donner moins k, donc on va d'abord le traiter, moins k sur 2pi, l'intégrale sur le disque dr dφ. Donc ce qu'on va faire, c'est on intègre par partie, donc on dit que c'est dr de ça moins dr de epsilon fois dv à phi. Donc je vais peut-être d'abord écrire celui-ci, dr de epsilon dv à phi. J'ai moins un terme de surface qui est k sur 2pi. Enfin, le terme de surface, on peut l'écrire tout de suite. Hein. Le seul bord, c'est ici. Donc, en r égale à 0, il n'y a rien. Et je suppose que mes champs sont réguliers, etc. Donc, le terme qui vient de r égale à 0, puisque j'intègre de 0 à r1, ne me donne rien. Donc j'ai que le terme en R égale à R1. Donc je vais avoir en R1 des phi de epsilon dv de 1 phi. Si je ne me trompe pas, j'ai ça. Avec les signes qui ont l'air d'être bons. Oui, c'est ça. Et alors, par contre, ici, je peux intégrer par partie facilement parce que il n'y a pas de terme au bord, étant donné que phi est une variable périodique. Et donc, phi égale à 0 et phi égale 2 pi, c'est la même chose. Et mes champs sont réguliers. Donc, je suppose qu'ils sont bien définis sur le disque. Et donc, en particulier, ils sont périodiques en phi. Et donc, là, je peux intégrer par partie sans me poser de questions. On peut raffiner et considérer des choses plus générales, mais c'est ce que je vais supposer ici. Et donc, lorsque j'intègre par partie, je vais avoir moins par moins, c'était déjà plus, donc ça va être moins k sur 2 pi dφ de epsilon dv de ar d2x, oui, là j'oublie dr dφ. D'accord? Donc là on se met en r égale à r1. C'est une intégrale sur le bord. Bien, alors on voit que ces deux termes ici, ils ont la bonne structure. Donc si en fait on ne se pose pas de questions sur le terme aux limites et qu'on regarde les termes à l'intérieur du disque, ben on va dire, ah ben c'est facile, je vois dv de AR ici et je vois dv de AR ici, et la relation c'est que x oméga doit être égal à moins dv de f, et donc on va obtenir que x phi, en comparant ces termes-ci et en se souvenant qu'il y a un signe moins dans la comparaison à mettre, il y a k sur 2 pi des deux côtés, c'est des phi de epsilon. Donc la variation infinitésimale de a phi, c'est des phi de epsilon. Et puis je compare ce terme-ci avec ce terme-là. Alors là, il y a déjà le signe moins, donc je vais obtenir que xr, c'est dr epsilon. Donc vous voyez, donc ça c'est la variation infinitésimale des potentiels vecteurs. Ça me reproduit bien ceci pour la partie spatiale. Je vous dirai un mot sur la partie temporelle après. Et donc effectivement, on obtient une transformation de jauge. Mais on obtient une transformation de jauge que si ce terme-ci est absent. Ou, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Ce terme-ci, en général, ne va pas être égal à zéro. Ce terme-ci, ben, si epsilon n'est pas nul au bord, ça c'est des variables qui ne sont pas restreintes au bord, en général, ceci va être non nul. Donc si epsilon, le paramètre de jauge, n'est pas nul au bord, f, tel qu'il est la fonction f ici, ne me définit pas, donc ici, pardon, ne me définit pas une transformation canonique. Mais on peut facilement remédier à la situation en observant que ceci, en fait, c'est moins k sur d, c'est moins dv, écrivons ça comme ça, même plus dv, écrivons moins, peut-être on va mettre un moins, ça c'est quand même mieux, moins dv de k sur 2 pi intégrale dφ epsilon à phi. Bon, le dv ne touche pas epsilon, hein. Epsilon dépend des x, et dv agit sur les champs, hein. Donc dv et dh, c'est pas pareil, donc c'est pour ça que je peux le sortir, le faire passer à travers. Donc vous voyez que si je dv de f a la bonne structure, a dv d'un terme de surface près. Donc si j'ajoute à f ce terme de surface, je vais avoir un générateur qui est bien défini. Donc ce qu'on va faire, on va dire, en général, on va considérer comme générateur, donc amélioré, égal à moins k sur 2 pi, ou je vais l'écrire comme les gens l'écrivent, l'intégrale d2x de la contrainte fois epsilon, plus un terme de surface, qui est dans notre cas, k sur 2 pi, intégrale dφ epsilon à phi. Et ce f amélioré a la propriété qu'il définit une transformation canonique que epsilon soit nul ou pas au bord. Si epsilon est nul, ce terme est absent, et le terme et f est, comme c'est une combinaison des contraintes, est égal à zéro. Mais si epsilon n'est pas nul, ce terme est présent à une certaine valeur, il faut voir, et f, quand la contrainte sera satisfaite, ne va pas se réduire à zéro, mais va se réduire au terme au bord. Alors, je vais commenter ça dans un cadre plus général tout à l'heure, mais on retient déjà la chose suivante. C'est que d'abord, la contrainte engendre les transformations de jauge et sans correction nécessaire si ces transformations de jauge sont nulles au bord. Quand les transformations de jauge sont pas nul au bord, c'est plus subtil, il y a des choses qui se passent et il faut ajouter des termes de surface au générateur. Et on va voir que ces termes de surface ont un sens physique important, mais je vais d'abord développer la théorie, enfin on va poursuivre avant de revenir sur ces termes de surface et de regarder quelle algèbre... mais je dois parler un petit peu pour ça de ce que sont les observables de la théorie, et donc je dois développer un certain nombre de choses avant. Alors F amélioré, je lui ai donné un nom, on en aura besoin par la suite, c'est Q de epsilon. Donc on voit que Q de epsilon, quand les contraintes sont satisfaites, alors c'est Dirac qui a inventé cette notation, c'est le signe faiblement égal, donc c'est pas... égal comme ça, mais c'est égal, il appelle ça faiblement égal, se réduit, donc quand les contraintes sont satisfaites, donc ça se veut dire quand G égale à zéro, quand contraintes sont satisfaites, se réduit au terme de surface. Mais en général, quand la contrainte n'est pas satisfaite, il faut un terme proportionnel à la contrainte. Alors, autre chose que je voudrais dire, c'est que sur le disque, quand la contrainte est satisfaite, f1,2 est égal à 0, je prétends que l'intégrale de Hafi au bord, donc si l'intégrale epsilon ici est une fonction quelconque de phi, hein. Si je prends epsilon constant, c'est aussi une fonction de phi, donc ça sort de là. Je prétends que cette intégrale-ci est égale à zéro. Donc en fait, le mode zéro ne posait pas de problème dans les problèmes d'intégration que j'ai mentionnés là. C'est égal à zéro sur le disque. Et pourquoi c'est égal à zéro sur le disque? C'est égal à zéro sur le disque parce que quand f1,2 est égal à zéro, et il faudra imposer des contraintes à un moment donné, cette intégrale ici, c'est la même que l'intégrale sur n'importe quel cercle dans lequel ce cercle de bord peut se déformer, mais peut se déformer en un point, donc c'est contractible, et donc l'intégrale de Hafi, lorsque f1,2 est égal à 0, le long d'un cercle fermé, est égal à 0. Donc sur le disque, on a une contrainte qui apparaît pour Hafi. Je ne peux pas vous préciser, je peux pas donner Hafi n'importe comment sur le bord. Si je vous donne Hafi n'importe comment sur le bord et que son intégrale n'est pas nulle, vous n'allez jamais trouver une solution f1,2 de f1,2 égale à 0 qui a cette valeur au bord. Et donc, l'espace des phases, disons, dans le cas de Chern-Simons sur le disque, a réellement, dans le contexte où je me place, on peut faire mieux, mais disons, plaçons-nous là. Donc, si on a des fonctions, disons, qui sont régulières et tout, il faut que l'holonomie de Hafi doit être égale à 0. Et ça, c'est parce que le disque est contractible. Si j'avais évidemment un anneau, ce que je saurais, c'est que l'intégrale ici est égale à l'intégrale là, sur l'autre bord, mais pas nécessairement égale à zéro. Bien. Donc, en fait, ceci me dit juste que le mode zéro de Hafi est égal à zéro. Donc effectivement, si epsilon est constant, on n'a pas de problème en fait du type que j'ai invoqué. Mais si epsilon est une fonction non triviale de phi, donc les harmoniques supérieures, ceci sera non nul en général et donc il faut faire cette correction. Il faut améliorer. Bien, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc je vais tirer les conclusions ici et puis on va faire Maxwell pour voir qu'en fait Maxwell a la même structure. Je prétends à nouveau la chose suivante, c'est que lorsqu'on a une théorie possédant une invariance de jauge, le passage à l'hamiltonien n'est pas trivial, ça je l'ai expliqué la fois passée, on a un problème avec la transformation de Legendre, mais à la fin on peut construire un formalisme hamiltonien. Ce formalisme hamiltonien est basé sur un espace des phases, il y a des P, il y a des Q, dans notre cas c'est à phi et à R, mais il peut y avoir un hamiltonien, bon, dans notre cas l'hamiltonien est nul, ou peut-être un terme de surface, je reviendrai là-dessus plus tard, mais en tout cas à l'intérieur du disque, il n'y a rien. Mais il y a aussi un terme qui fait apparaître une contrainte avec un multiplicateur de Lagrange, et on voit que certaines des variables sont des multiplicateurs de Lagrange pour cette contrainte, et cette contrainte engendre les transformations de jauge. Et ça, c'est une propriété générale, donc on va vérifier maintenant à nouveau expérimentalement, si je puis dire, que sur Maxwell, quand on veut passer au format du hamiltonien, on a exactement la même structure. On va voir apparaître, on peut construire un espace des phases, mais pas toutes les variables lagrangiennes de départ ont un moment conjugué. Celles qui n'ont pas de moment conjugué vont jouer le rôle de multiplicateur de Lagrange pour des contraintes. Alors oui, je peux le dire aussi, c'est assez évident. Les contraintes, j'en ai réellement une infinité. Hein. En chaque point de l'espace, j'en ai une. J'écris pas toujours l'argument, mais j'ai autant de contraintes qu'il y a de R et de phi possibles. Hein. C'est F1,2 de R et de phi égale à 0. Donc c'est des fonctions de x. Donc j'ai une infinité de contraintes, mais il est facile de vérifier, je vous laisse vérifier ça comme exercice, que ces contraintes commutent, que le crochet de Poisson des contraintes entre elles est égal à 0. Et en un sens, il valait mieux, puisque si on pense que les contraintes engendrent les transformations de jauge, ça veut dire que si vous partez d'une configuration où F1,2 est égal à 0 et que vous faites une transformation de jauge, vous restez avec F1,2 égal à 0. Alors, c'est super évident, puisque F1,2 est invariant de jauge, mais dans ce cas-ci. Mais de manière générale, les contraintes associées aux transformations de jauge ont la propriété que leurs crochets de Poisson sont nuls, en tout cas quand on utilise les contraintes, et Dirac a baptisé cette propriété première classe. Donc des contraintes qui ont la propriété que les fonctions correspondantes ont des crochets de Poisson nuls en vertu des contraintes, c'est ce qu'on appelle des contraintes de première classe. C'est peut-être pas une terminologie la plus parlante, mais bon, c'était Dirac, et il appelle ça les contraintes de première classe. On peut dire des contraintes de jauge, ou... enfin voilà. Donc les contraintes de première classe, c'est celles qui sont associées à la variance de jauge, c'est les seules qu'on va rencontrer dans le cours. Bon, alors ceci est. Donc là, j'ai résumé ce qu'on avait vu pour Stern-Simons. On va voir exactement la même chose pour Maxwell. On va voir que la transformation de Legendre pose des problèmes, mais on va s'en sortir. Et à la fin, on va avoir un espace des phases, un hamiltonien et des contraintes avec un multiplicateur de Lagrange. Et puis je vous dirai qu'en fait, c'est toujours ce qu'on trouve. Pour le moment, j'ai plus besoin de ça maintenant. Donc on va essayer de faire Maxwell avant l'interruption. Enfin l'interruption, c'est-à-dire avant la fin de la première heure, de la première leçon. Donc essayons d'écrire à nouveau l'action de Maxwell sous forme hamiltonienne. Donc Maxwell, je vais travailler à quatre dimensions parce que, comme quelqu'un l'avait observé, j'ai tendance à écrire des 3x de toute façon. Donc bon... Donc c'est moins un quart, là c'est d4x, donc dt d3x, f mu nu, c'est le même f mu nu que tout le temps, c'est-à-dire d mu à nu, moins d nu à mu, on va peut-être écrire un grand. Hein? Et donc a mu est strictement invariant de jauge, donc sous la quand on transforme a mu comme ceci, c'est invariant, et donc l'action est invariante, quel que soit epsilon, donc il peut être une fonction arbitraire du temps, donc c'est typique d'espace bien sûr, mais aussi du temps, donc c'est un système qui possède une invariance de jauge. Et du coup, on sait qu'on va avoir un problème quand on veut passer à l'hamiltonien, et pour mettre en évidence ce problème, on va décomposer l'action ici dans l'espace et le temps. Donc je vais d'abord... Donc mu et nu, peuvent prendre un des deux indices peut avoir la valeur 0, ou bien les deux indices peuvent être tous les deux spatiaux. Donc quand 1 a la valeur 0, ça peut être mu, ça peut être nu, donc on va l'avoir deux fois. Donc je vais avoir moins 1 demi dt d3x f0i, et puis je vais avoir moins 1 quart dt, d3x. Donc je fais c égale à 1, hein, je l'ai déjà dit, mais fmn. Et oui, je ne l'ai peut-être pas dit aussi, mais j'utiliserai comme signature de la métrique minkowskienne. Donc là, c'est important, puisque maintenant, j'ai la métrique minkowskienne. Donc là, sa signature, c'est moins 1, donc c'est moins 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Alors, vous voyez la difficulté tout de suite. Donc ceci, il n'y a pas de dérivée temporelle, donc c'est plus comme une énergie potentielle. Donc ça va jamais, ça contribue pas à la transformée de Legendre. Donc les dérivées temporelles, elles sont ici. Mais les dérivées temporelles qui apparaissent, c'est d0 à i moins di à 0. Et donc en particulier, il n'y a pas de d0 à 0. N'apparaît pas. Et donc si vous calculez le moment conjugué à a0 de cet Hamiltonien-ci, vous obtenez 0, qui typiquement n'est pas inversible. Hein. Donc on ne peut pas exprimer a.0 en fonction des moments conjugués, parce que le moment conjugué correspondant à a0 est égal à 0. Par contre, si je calcule les moments conjugués à ai, donc je dérive ceci par rapport à 0i, ben là vous voyez, ça apparaît quadratiquement à 0i, et donc on va obtenir, j'ai un moins 1,5, je vais obtenir moins f0i. Et ça, je peux l'inverser pour exprimer, bon, donc ça va être d0 à i moins di à 0, donc je peux l'inverser pour exprimer les vitesses d0 à i en fonction des moments. Donc l'idée, je ne vais pas utiliser le formalisme général de Dirac pour traiter ce problème, je vais dire, ben, puisque a0 résiste et n'a pas de moment conjugué, ben, dans la transformation de Legendre, je vais traiter a0 comme une variable observatrice, enfin passive, je vais faire la transformation de Legendre juste sur ai point et pi, ce que je peux faire puisque c'est inversible. Et donc là, j'applique les formules standards du formalisme hamiltonien. Et donc là, je vous laisse faire comme exercice d'obtenir, voir ce qu'on obtient. On va obtenir un hamiltonien. Ah, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On définit les pi, ben, c'est défini. Puis on calcule pi a point i moins l. Ça définit le hamiltonien en fonction des pi et des a. Et puis l'action hamiltonienne, c'est pi a point i moins h, le h étant défini comme ça, hein, exprimé en fonction des moments. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on obtient comme action? Donc, je vais vous l'écrire. Alors, a0 vient, on le traite comme un paramètre extérieur, si vous voulez, mais c'est une variable, hein, qu'il faudra quand même, c'est pas un paramètre parce qu'il faut l'extrémiser par rapport à a0, mais on peut faire tout ça sans introduire de moment conjugué à A0. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va obtenir? Je vais l'écrire. Peut-être que je n'ai pas besoin d'autant. Bon. J'écris tout de suite l'action de Maxwell sous forme hamiltonienne. Donc là, je vous laisse remplir les détails. L'action hamiltonienne de Maxwell. Donc elle va dépendre de AI, de son moment conjugué. Oui, qui soit dit en passant, j'aurais dû le dire, c'est le champ électrique. Hein. Donc le moment conjugué au potentiel vecteur dans la théorie de Maxwell, c'est le champ électrique. Ce n'est pas vrai dans Chern-Simons, on a vu que le moment conjugué à AR, c'était AFI. Mais dans la théorie de Maxwell, le moment conjugué à AR, c'est le champ électrique radial. Donc c'est des théories différentes, les Lagrangiens sont différents, donc les moments conjugués ont des expressions différentes, les nombres de degrés de liberté sont différents, donc c'est pas choquant, mais j'insiste là-dessus. Et puis on a A0. A0, il est là, il regarde ce qui se passe quand on fait la transformation de Legendre, mais il est toujours là, donc il y a A0. Et donc ça va être la forme cinétique. Alors, je vais peut-être écrire ça comme ça. Un D3X, mais je mets tout. Oui, je ne sais pas si. Il y a probablement des parenthèses superflues, mais ce n'est pas grave. AI, PIA.I, qui est le terme cinétique standard en hamiltonien, moins, et je vais vous expliquer ce que c'est, moins A0 fois G. Donc A0 apparaît linéairement dans l'action hamiltonienne, multiplié par... plus éventuellement des termes de surface, mais ça je les discuterai à nouveau plus tard, quand on va regarder l'action des contraintes. Donc à des termes de surface près qu'il faudra étudier soigneusement, voici l'action. Et donc je ne vous ai pas dit quand même ce que c'était H, donc il faut que je le dise. H, c'est la densité d'énergie, ce n'est pas surprenant. Donc c'est le E carré plus B carré. Le champ électrique E, c'est pi, donc on va avoir 1 demi pi carré. Et puis B carré, la densité d'énergie magnétique, mais B c'est Fmn, donc c'est plus un quart. Donc en fait, il apparaît dans le Hamiltonien, c'est normal, c'était l'énergie potentielle. Et G, c'est moins DI pi I. Donc la divergence du champ électrique. Donc rappelez-vous, PI c'est le champ électrique, donc c'est la divergence du champ électrique, champ électrique au carré, champ magnétique au carré, donc c'est des expressions qu'on reconnaît, enfin peut-être moins ceci, sauf qu'on sait qu'il y a une équation de Maxwell qui dit des choses sur la divergence, et donc en fait vous voyez qu'effectivement l'équation de Maxwell qu'on connaît, que la divergence du champ électrique est égale à zéro en l'absence de source, ben, elle est obtenue en variant l'action par rapport à zéro. Que la densité d'énergie qui va engendrer le mouvement, et on a la partie cinétique qui me dit que pi est le moment conjugué à i, et donc la forme symplectique va être, ça je dis ça d'ici, d3x dv pi dv ai. Et à nouveau, on n'a que des pi et des a non différenciés qui apparaissent. Donc quand on va commencer à s'intéresser aux termes de surface, il faudra faire attention. Enfin, on aura le même type de difficulté que tout à l'heure avec Chan-Simons. Ça, c'est la densité d'énergie. Et ceci, donc, on voit que la contrainte qui dit que G égale à zéro, c'est la loi de Gauss. La divergence du champ électrique est égale à zéro. Donc s'il y avait un champ chargé, bon, ça, c'est la loi de Gauss quand il n'y a pas de charge, mais j'aurais un terme dans l'Hamiltonien, dans le Lagrangien qui est 1 mu J mu, c'est-à-dire à zéro fois la densité de charge, et quand on fait la transformation de Legendre, ben on a dit à zéro on n'y touche pas, il passe à travers, et donc vous allez avoir apparaître ici la densité de charge, et donc la loi de Gauss standard, puisque c'est multiplié par à zéro, donc G va être modifié par la densité de charge, et donc on va avoir que le flux du champ électrique est lié à l'intégrale de la charge à l'intérieur de la surface, hein, par la loi de Gauss, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui m'intéresse, donc je vais supposer qu'il n'y a pas de charge parce que on va simplifier la vie, parce que le point que je veux faire, c'est que la contrainte, donc ceci doit être égal à zéro quand on l'apprend quand on multiplie par rapport, quand on extrémise par rapport à zéro, je prétends que la contrainte est ce qui engendre les transformations de jauge. En tout cas, lorsque le paramètre de jauge tend vers zéro à l'infini et qu'on n'a pas à se préoccuper des termes d'intégration par partie. Et donc, je pense que le calcul est assez facile, je vais l'illustrer dans les 5 minutes qui restent. Donc ce qui nous intéresse, c'est calculer... Donc je prétends que si je calcule D3Y epsilon, que cette fonction-ci... Donc j'insiste sur le fait qu'en chaque point, on a une équation. Hein, donc, parce que ces champs dépendent de la variable. Hein. Donc je ne l'écrivais pas tout le temps, mais parfois je l'écris quand je veux insister sur le fait que c'est local et epsilon est une fonction. Et donc je prétends que ce générateur-ci donc qui est obtenu en prenant la contrainte, en la multipliant par un paramètre quelconque, plus éventuellement des termes de surface, et on va tout de suite les déterminer, est le générateur des transformations de jauge, c'est-à-dire de la transformation qui est ici. Ah oui, alors j'aurai le temps aussi de dire comment on retrouve la loi de variation de A0. Je le dirai. Alors, en fait, c'est assez facile à voir. Vous voyez apparaître ici moins epsilon di pi i. Donc, si vous intégrez par partie, c'est moins. Donc, il va y avoir un terme de surface, mais d'abord j'écris le terme de volume, qui sera plus dI epsilon pi i, moins dI epsilon pi i. D'accord ? Alors, ceci se transforme en un terme de surface. Donc rappelez-vous, ce qu'il faut faire, c'est calculer la dérivée extérieure de Q. Et donc on va avoir un dV pi i qui va apparaître, mais qui peut s'écrire lui-même comme le dV de quelque chose. Donc même si ceci n'est pas nul, je pourrais trouver un terme de surface dont la variation compense éventuellement ça. Mais supposons qu'epsilon soit nul, comme ça on ne doit pas se poser la question. Vous voyez qu'effectivement, le générateur Q epsilon contient les moments conjugués linéairement multipliés par le gradient de epsilon. Donc si j'applique ma machinerie qui dit réellement, qui utilise le fait que pi est le moment conjugué à A, et donc la machinerie, c'est cette fameuse équation dV de F moins est égal à Ix de oméga. Donc si j'applique ça dans ce cas-ci, je vois que AI est conjugué à pi, et vous voyez que ceci dépend de pi, donc vous allez voir que la transformation de AI engendré par ceci, c'est moins le gradient de epsilon, puisque ça voit AI voit PI, et donc je vais obtenir moins DI epsilon. Donc je vais reproduire la transformation de jauge, en tout cas lorsque epsilon est différent de 0, est nul au bord. Si epsilon n'est pas nul au bord, je vais reproduire cette transformation, mais je vais devoir corriger le générateur en ajoutant un terme de surface qui va compenser ceci. Donc le terme de surface, on voit tout de suite ce qu'il faudra ajouter. C'est l'intégrale sur la 2 sphère. Je suppose que j'intègre sur une sphère, donc le bord de la sphère, sur une boule sphérique, pardon, et donc sur la sphère du bord, je vais obtenir d2si epsilon pi, que je dois ajouter de manière à ce que ça, lorsque je calcule dV de ça, ça va compenser ce qui sort de l'intégration par partie. Donc le générateur, ben écrivons-le tout de suite, c'est ça, c'est ceci. Et donc je suppose, si par exemple je prends tout l'espace, donc ceci va être la 2 sphères à l'infini, je suppose que même si epsilon est constant, pour que ceci converge, il faut que pi obéisse à des conditions de décroissance appropriées. Hein. Il y aura des conditions limites à imposer, on regardera ça plus tard. Mais ce que je veux dire ici, c'est le point central, c'est que si epsilon est nul au bord, de manière à ce qu'on ne doive pas se préoccuper des termes au bord, effectivement, cette fonction-ci, qui s'annule en vertu des contraintes, en fait c'est une combinaison des contraintes avec une fonction arbitraire comme coefficient, engendre la transformation de jauge. Et donc on a à nouveau cette relation de ce rôle dual joué par les contraintes, que les contraintes, c'est des contraintes, elles ne permettent pas, hein, c'est des contraintes, elles me disent que pi ne peut pas être n'importe quoi, le champ électrique ne peut pas être n'importe quoi, il doit obéir à la contrainte, mais en plus ça engendre la transformation de jauge. Alors, peut-être deux choses à dire encore. Première chose, comme les fonctions qui définissent les contraintes ne dépendent que des moments conjugués, et que le crochet de poisson des moments conjugués avec eux-mêmes, c'est zéro, hein, ils sont conjugués à A, mais il n'y a pas de... si vous calculez la matrice des crochets de poisson, pi avec pi, c'est zéro, mais c'est évident que ces contraintes, à nouveau, sont de première classe. Le crochet de poisson de deux contraintes à des points distincts, qui n'est pas nécessairement nul par antisymétrie. Quand c'est au même point, c'est clair que c'est nul, mais si c'est à des points distincts, ce n'est pas nécessairement nul. Il est nul dans ce cas-ci. Donc, ce qui est à nouveau normal, si vous faites une transformation de jauge et que vous êtes sur la surface, disons, dans l'espace des phases défini par la contrainte, vous n'en sortez pas. Hein, c'est clair, en fait, c'est F0i, c'est des invariants de jauge, donc c'était normal. Et l'autre chose que je voudrais dire, et je vais juste... être un peu donner l'idée sans entrer dans le détail des calculs. Comment retrouve-t-on la loi de transformation de A0 hein, je vous ai dit la transformation de jauge pour AI, oui c'est bien, ça me donne ça. On obtient bien que delta de AI c'est DI epsilon. Comment est-ce que je sais que A0 doit se transformer avec des zéros de epsilon. Alors ça, c'est, ça sort directement de l'invariance de l'action. Si vous me posez la question, comment est-ce qu'il faut transformer à zéro pour que l'action hamiltonienne soit invariante, bien, vous allez voir que comme ceci n'est pas strict, bon, AI n'est pas invariant de jauge, donc ceci va obtenir va donner quelque chose quand vous faites une invariance de jauge, mais on peut voir que c'est on peut voir facilement, ça va me donner ça. Et donc on peut voir qu'en intégrant par partie, ça peut se transformer. Bon, on aura. Oui, à nouveau, il faut faire attention à l'infini. Mais disons, je vais pouvoir le transformer en epsilon point, enfin la loi de Gauss. Et donc je pourrais compenser la variation de ce terme par une variation du multiplicateur de Lagrange qui va être précisément proportionnelle à epsilon point. Et ça, c'est la règle générale. La loi de transformation des multiplicateurs de Lagrange, elle sort directement de l'invariance de l'action. Et en fait, c'est à nouveau le terme cinétique qui va vous dire que quand on regarde la variation du terme cinétique, on peut faire apparaître les contraintes, et donc ça peut être compensé par la variation des multiplicateurs de Lagrange. On a la même chose pour Chern-Simons, je ne l'ai pas vérifié explicitement, mais c'est une règle générale. Et donc, on a à nouveau, aussi bien dans le cas de Chern-Simons que dans le cas de Maxwell, cette relation qu'on a observée, c'est que il y a des contraintes qui apparaissent dans le format du Hamiltonien, et ces contraintes, non seulement elles contraignent le système, pardon, mais elles engendrent aussi les transformations de jauge. Et après l'interruption d'une demi-heure, donc à la deuxième leçon, je vous dirai comment ça se passe en général. Donc ce qu'on a trouvé ici, c'est pas un accident, c'est en fait une illustration de la propriété générale. Je regarderai un autre exemple, et puis on va se centrer sur la signification des termes de surface. En tout cas, dans Chern-Simons, c'est facile à comprendre et c'est une structure riche et intéressante. On verra apparaître l'algèbre de Kac-Moody quand on calcule l'algèbre des termes de surface. Bien, donc on va s'arrêter ici pour la première leçon.